Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Marie-Claire Oumabadi.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Alors que des élections anticipées devraient avoir lieu au Royaume-Uni en décembre et que le Brexit a encore été reporté de 3 mois, c'est l'histoire de la prospérité britannique qui nous intéresse cette semaine. Après l'essor économique qui a suivi la conquête normande au XIe siècle et la naissance de la place financière de la City, c'est le commerce colonial et les débats qu'il a suscité que nous allons examiner aujourd'hui. L'Empire britannique, d'abord tourné vers l'Amérique, bascule vers l'Orient à la fin du XVIIIe siècle avec l'indépendance des États-Unis. Au même moment, des voix s'élèvent parmi les philosophes pour contester les bénéfices de la colonisation. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir sur les débats qui accompagnent l'expansion coloniale britannique en compagnie de Jean-François Duniac, maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université, spécialiste de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et co-directeur de l'ouvrage « Les mondes britanniques, une communauté de destin ?», publié l'an dernier aux presses universitaires de Rennes. Avec nous également depuis Bordeaux, Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne et auteur de « La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours », paru il y a quelques années chez Armand Collin. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Jean-François Duniac et Philippe Chassaigne.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, on va peut-être essayer de définir dans le temps cette période de l'Empire colonial britannique. Sur quelle période est-ce que cet empire s'étend, Jean-François Duniac ? Et aussi, que désigne l'expression d'empire colonial britannique ?
Alors, c'est une affaire qui couvre près de 2 siècles et demi. Si l'on prend un marqueur historique tangible, on peut évoquer 1607 et la première fondation d'une colonie pérenne en Amérique, la colonie de Jamestown, donc en Virginie, qui marque véritablement le début de l'implantation physique des Anglais, puis des Britanniques dans le Nouveau Monde. On a forgé à partir de la fin du XIXe siècle et pendant le premier tiers du XXe siècle une forme de narration qui aurait voulu ou qui décrit, j'allais dire, la constitution d'un premier empire, donc entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe, s'articulant autour du choc de la perte de l'Amérique, des 13 colonies américaines entre 1776 et 1783, qui aurait vu donc une bascule, sur la notion sur laquelle il faudra revenir et fortement tempérer, une bascule vers l'Orient, avec le passage d'un empire anciennement mercantiliste vers un empire libéral, qui se serait déployé tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, jusqu'à la constitution du Commonwealth, donc en 1931.
Philippe Chassaigne, cette vision d'un premier empire britannique et d'un second empire britannique qui commencerait après l'indépendance des 13 colonies américaines, c'est une vision qui a ensuite été remise en question ?
Oui, mais comme le dit Jean-François, il faut effectivement le nuancer très fortement, parce que la Compagnie des Indes Orientales, donc elle est quand même fondée en 1600, à la fin du règne d'Elisabeth Ier, ce qui veut dire que dès même avant la date importante, hein, 1607 qu'évoquait Jean-François, les Britanniques s'intéressaient à ce qui se passait donc en Asie du Sud. Voilà pourquoi cette narration ou cette présentation est très pédagogique, mais bon, ça marche auprès des étudiants, mais en réalité les choses sont plus complexes.
Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Jean-François Duniac, l'Empire ne constitue pas une priorité pour la couronne britannique ?
Non. Si je peux juste une incise symétrique par rapport à ce qu'a dit Philippe, effectivement, le passage vers l'Est, vers l'Orient, à la fin du XVIIIe prétendument et au XIXe siècle, c'est complètement oublié l'aventure canadienne de l'Empire britannique au XIXe siècle. Les Britanniques ont connu aussi une aventure du Far West, hein, de l'Atlantique au Pacifique, à travers justement la constitution de ce qu'on appellera plus tard le dominion du Canada. Donc ça, c'est un point extrêmement important.
Et alors, sur cet aspect du moment où l'Empire constitue vraiment une priorité pour la couronne britannique, tout au long du XVIIe siècle, les colonies sont encore très peu peuplées.
Alors oui, pour ce qui est de la priorité, c'est un point là aussi absolument, je crois, vraiment fondamental. C'est qu'on ne trouve pas la notion, en tout cas le terme d'Empire britannique, avant très tard dans le XVIIIe siècle. Ne serait-ce qu'au Parlement britannique, l'une des toutes premières occurrences, en réalité, c'est une pétition adressée au Parlement en 1775, janvier 1775, où on parle de This British Empire, qui montre que la notion elle-même commence seulement à cristalliser et à faire sens, à la fois pour l'opinion publique et pour les institutions. Donc ça, c'est un premier point. Pour ce qui est de l'essor démographique, on estime à peu près 1,3, 1,5 million le nombre de Britanniques qui, du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, ont émigré vers les nouveaux mondes, qu'ils soient américains, caraïbes et déjà asiatiques. Très très peu d'ailleurs pour ce qui est de l'Asie. C'est tout de même une ponction importante sur la population qu'on lit d'ailleurs dans l'évolution démographique des îles britanniques.
Sur cette question de l'expression d'empire britannique, Jean-François Duniac parle de cette importance de cette notion à partir du XVIIIe siècle. Elle va durer jusqu'en 1931 et désigner jusqu'en 1931 l'ensemble des territoires qui reconnaissent la souveraineté de la couronne britannique. Philippe Chassaigne ?
Oui, c'est cela. Effectivement, en 1931, c'est le statut de Westminster, et donc on ne parle plus d'Empire britannique, mais c'est le British Commonwealth of Nations, la communauté britannique des nations. Ce qui est assez amusant, là, je ferai une incursion sur la période moderne, c'est que en fait, 1607, c'est la fondation des villes de Jamestown, mais il y a un moment où il y a une prise de conscience de l'importance de ce qui se passe outre-mer, c'est justement au moment où il n'y a plus de monarque. Donc c'est sous Cromwell que la Jamaïque a été annexée et que l'ont été votées les lois de navigation qui instaurent le système mercantiliste. Effectivement, ensuite, donc 1740-1750, c'est le moment où cette notion de cette expression empire britannique apparaît, avec tout de suite d'ailleurs le slogan cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, qui est très popularisé au 19e, mais qu'en fait on n'a pas, qui apparaît dans les journaux ou dans des discours à la Chambre des communes aux alentours de 1743 ou 50, enfin, la date m'échappe, mais Jean-François la connaît sûrement mieux que moi.
Vous avez cité ce terme de mercantilisme. Le système colonial du XVIIIe siècle est en effet fondé sur le mercantilisme. On va expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un texte de Josiah Tucker qui publie en 1759 ses questions sur le commerce traduites en français par Turgot.
On a nécessairement des rivaux en dedans ou au dehors, lequel fait le plus de mal au royaume que nos négociants aient pour concurrents leurs compatriotes ou des étrangers. La concurrence à l'intérieur a-t-elle jamais nui à aucune nation ? Qu'est-ce que le bien public ? N'est-il pas pour la plus grande partie l'effet naturel de l'émulation entre les membres de la même société ? Et que deviendrait l'industrie, la tempérance, la frugalité et le désir d'exceller dans son art si l'émulation n'existait pas ? Lequel vaut mieux pour le public ? Des associations entre nos manufacturiers et nos marchands ou une grande concurrence entre eux? Laquelle de ces deux choses tend le plus fortement à hausser le prix de nos exportations et à diminuer nos richesses? Si nos marchands du Portugal se plaignent qu'ils perdent quelquefois ou qu'ils ne gagnent pas assez sur les draps qu'ils envoient à Lisbonne, ferons-nous bien de supprimer la moitié de nos fabriques de draps? Et si nous prenions ce parti, le vide qui s'ensuivrait dans la consommation du Portugal ne serait-il pas bientôt rempli par les Français, les Hollandais? Nos ouvriers en drap n'iraient-ils pas bientôt chercher en France et en Hollande l'occupation que nous leur aurions interdite chez nous ?
Jean-François Duniac, à la lumière de ce texte de Josiah Tucker que l'on vient d'entendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette théorie économique du mercantilisme ?
Alors là, en l'occurrence, oui, avec Tucker, on a une belle illustration des débats. D'ailleurs, à un moment, Tucker sera extrêmement impliqué dans la crise américaine, justement, autour de la question de l'Empire. Soit de sa défense, soit de son abandon. Et ce que défend finalement Tucker, c'est l'idée, j'allais dire, du juste commerce, de l'harmonieux commerce finalement entre les nations, expliquant que finalement une nation ne peut pas faire son profit en, dominant, martyrisant ses voisines. Et on a là cette idée qui est déjà une forme d'évolution par rapport à un mercantilisme originel qui se veut davantage, j'allais dire, prédateur, où il s'agit de se tailler un empire dans les ressources du monde qui sont censées être plus ou moins fines. En concurrence bien sûr avec les autres nations. Ce que Tucker déjà développe davantage, il est inspiré en cela par David Hume, qui est un philosophe écossais du du XVIIIe siècle, c'est précisément cette idée d'un sain commerce et d'une saine relation entre les nations. On est déjà dans un mercantilisme 2.0, je dirais.
Alors, c'est peut-être la première version, la version originelle du mercantilisme qui va inspirer la politique commerciale de la couronne britannique et les fameux actes de navigation qui sont décrétés au milieu du XVIIe siècle, Philippe Chassaigne.
Oui, c'est cela. C'est en fait l'idée des actes de navigation qui en fait ont été adaptés sous Cromwell. Donc, c'est de réserver aux navires britanniques l'intégralité du commerce avec les colonies britanniques. Donc, il faut faire rentrer le plus possible d'or et d'argent, enfin d'espèces non trébuchantes sur le sol britannique et dépenser le moins possible.
Avec cette idée qui s'appuie sur la théorie du bullionisme, c'est ça que c'est la circulation, enfin la masse monétaire et métallique qui est la plus importante, Philippe Chassaigne ?
Oui, c'est ça. Bullion, ce sont les espèces. Hein, donc, c'est effectivement la circulation des espèces et l'accumulation des espèces qui doit être l'alpha et l'oméga de la politique commerciale de la Grande-Bretagne.
Et donc, ce sont des lois protectionnistes, Jean-François Dignac, qui vont demeurer en place jusqu'au milieu du 19e siècle.
Absolument. En réalité, l'histoire des relations entre ce qu'on peut appeler la métropole, c'est-à-dire l'Angleterre, puis la Grande-Bretagne et ses colonies à mesure qu'elles se développent, c'est l'histoire quasi chronologique de toute une série d'actes de navigation. Le premier passé, comme l'a dit Philippe, en 1651 sous Cromwell. Mais à mesure que les colonies se développent, et développent d'ailleurs leur économie et leur production, on voit la métropole imposer des barrières, empêchant d'ailleurs, ou se réservant le commerce colonial, mais même parfois empêchant l'importation de produits coloniaux, certaines productions notamment pour les colonies américaines, sur le marché intérieur que l'on essaye de se protéger. Vous avez tout un train comme ça de lois tout au long du XVIIIe siècle. C'est une des modalités naturelles de fonctionnement, j'allais dire, de la métropole avec ses colonies.
Et alors justement, quels sont les bénéfices économiques que la Grande-Bretagne retire de ses colonies au XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, Philippe Chassaigne ?
Ah ben déjà, sur le continent américain, il y a donc le sucre des Antilles, également le café, les produits dérivés de la production de sucre, les mélasses, le rhum. Il y a le tabac, des colonies donc d'Amérique du Nord, le bois d'œuvre. Également les fourrures, donc il y a tout un ensemble de produits, et j'en oublie bien évidemment, qui sont extrêmement utiles à ce moment-là pour l'économie britannique.
Des colonies qui connaissent un essor absolument remarquable, les colonies américaines, entre 1690 et 1750, Jean-François Dugnac.
Oui, alors pour donner une idée quand même de cette emprise de l'Empire, si l'on prend simplement l'activité en valeur du port de Londres, en 1680, deux tiers de l'activité en valeur du port de Londres arrive d'Europe. C'est du vin français, portugais, des fruits italiens, etc. Un siècle plus tard, en 1781, plus des deux tiers en valeur de l'activité du port de Londres, qui a été multiplié par 4, arrive d'outre-Europe. C'est effectivement, comme l'a dit Philippe, le rhum et le sucre des Antilles, c'est l'indigo et les plantes tinctoriales, c'est le thé, bien sûr, c'est le tabac. Ceci tout de même pour dire une chose, c'est que cet empire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est une authentique passoire. À la veille de la Révolution américaine, plus de la moitié du thé consommé dans les colonies américaines est du thé de contrebande. C'est-à-dire que malgré cette armature, j'allais dire législative, l'administration fiscale britannique n'a pas les moyens de contrôler son marché en réalité, elle prend l'eau de toutes parts.
Et ce sera moins le cas à partir du XIXe siècle.
Là encore, avec des réserves régionales, si vous voulez, une nouvelle fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir en tête qu'au XVIIe siècle encore, et jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'administration britannique, c'est peu de choses. C'est peu de moyens, c'est peu d'argent, c'est peu de bateaux, c'est peu de fonctionnaires. On ne contrôle pas l'Atlantique avec quelques centaines de douaniers.
Et l'un des piliers de cette économie impériale, Philippe Chassaigne, c'est évidemment la traite négrière, dont la Grande-Bretagne va véritablement devenir la première puissance.
Oui, parce qu'en fait, la main d'œuvre donc des plantations de canne à sucre dans les Antilles, c'est une main d'œuvre servile, donc c'est la main d'œuvre africaine. Je voulais juste ajouter aussi que pour le commerce, il y a ensuite depuis Londres le commerce de réexportation des produits coloniaux en direction du continent européen, qui est aussi important. Les produits importés des Antilles, d'Amérique du Nord, ne servent pas uniquement à l'activité économique britannique, mais également donc alimentent un commerce de réexportation extrêmement fructueux.
Et alors, quel est ce regard, quel est le regard qui est porté sur cette expansion coloniale anglaise? Dans un premier temps, au XVIIe siècle, le philosophe John Locke va louer et justifier cette expansion coloniale, Jean-François Duniac.
Oui, absolument. Alors là encore, avant les idées, j'allais dire, il y a la réalité sociale du personnage. C'est que John Locke, qu'on connaît comme le philosophe, est tout de même quelqu'un qui a été impliqué dans les affaires coloniales. Il a notamment été, j'allais dire, embarqué dans la rédaction d'une charte coloniale qui fait de lui finalement un penseur, sinon de l'Empire, en tout cas des colonies. Ça, c'est un point extrêmement important. Il a contribué à la rédaction notamment de la charte de Caroline, qui contient d'ailleurs des statuts extrêmement durs vis-à-vis de la main-d'œuvre, soit servile, alors avec 2 degrés, proprement des esclaves, mais également quasi-serfs attachés aux plantations. Et donc cette implication de John Locke explique effectivement une forme de, alors là encore, pas tant de défense et illustration de l'Empire ou de l'impérialisme, parce qu'une nouvelle fois, ces deux notions n'existent pas encore réellement, mais en tout cas des vertus d'une colonisation entendue comme, la saine expression de la liberté d'entreprise, de mise en valeur du monde, face, et là encore, Locke ne regarde que vers l'Amérique, à un monde qui apparaît comme un monde, j'allais dire, semi-sauvage.
Avec cette idée aussi que l'accumulation des richesses et l'accumulation des connaissances iront harmonieusement de pair.
Absolument. Il y a vraiment une progression géographique et civilisationnelle, j'allais dire, développée par John Locke.
Et sur cette question de la traite négrière, qui va devenir extrêmement centrale dans le commerce colonial de la Grande-Bretagne.
Oui, alors la Grande-Bretagne, effectivement, va être la première puissance négrière du XVIIIe siècle. 3,3 millions d'Africains sont déportés, 2,7 à peu près millions survivent à la traversée. Seulement, le grand port au XVIIIe siècle de la traite négrière, c'est Liverpool, qui va armer plus de 5500, peut-être jusqu'à 5700 voyages négriers. À la fin du XVIIIe siècle, Londres, Bristol et Liverpool, c'est 80% de la traite négrière mondiale. En tout cas, enfin, atlantique, j'allais dire, hein, simplement. C'est ce qui montre évidemment l'importance économique de tout cela. Avec bien sûr toute une série de critiques sur lesquelles on reviendra.
Et une ampleur de cette traite négrière qui va ensuite commencer à ralentir à partir des années 1760 environ.
Alors il y a une forme de plateau, c'est vrai, parce que là encore les économies mûrissent, hein, une nouvelle fois. Il y a des productions locales, évidemment, de reproduction locale en partie d'esclaves, mais le train reste quand même assez solide jusqu'à la fin de la période, jusqu'à la crise américaine.
Et alors ces bienfaits, ces bénéfices économiques retirés de la colonisation vont être remis en question par Adam Smith dans son ouvrage célèbre « La richesse des nations » qui a été publié en 1776. On en écoute un extrait.
Pour qu'une province devienne avantageuse à l'empire auquel elle appartient, il faut qu'elle fournisse en temps de paix à l'État un revenu qui suffise non seulement à défrayer la dépense totale de son propre établissement pendant la paix, mais encore à contribuer au soutien du gouvernement général de l'Empire. Chaque province contribue nécessairement plus ou moins à augmenter la dépense de ce gouvernement général. Ainsi, si une province particulière ne contribue pas, pour sa portion, à défrayer cette dépense, alors, il faut que la charge retombe de manière inégale sur quelque autre partie de l'Empire. Par une raison semblable aussi, le revenu extraordinaire que chaque province fournit à l'État en temps de guerre doit être, avec le revenu extraordinaire de la totalité de l'Empire, dans la même proportion que le revenu ordinaire qu'elle a à fournir en temps de paix. Or, on n'a pas de peine à convenir que ni le revenu ordinaire, ni le revenu extraordinaire que la Grande-Bretagne retire de ses colonies ne sont dans cette proportion avec le revenu total de l'Empire britannique. Il est vrai qu'on a prétendu que le monopole, en augmentant les revenus privés des particuliers de la Grande-Bretagne et les mettant par là en état de payer de plus forts impôts, compense le déficit dans le revenu des colonies. Mais j'ai tâché de faire voir que ce monopole, quoi qu'il soit un impôt très onéreux sur les colonies, et quoi qu'il puisse augmenter le revenu d'une classe particulière d'individus de la Grande-Bretagne, diminue toutefois, au lieu de l'augmenter, le revenu de la masse du peuple, et par conséquent retranche, bien loin d'y ajouter, aux moyens que peut avoir le peuple de payer des impôts.
Un extrait de La richesse des nations, lu par Antoine Beauchamp. Adam Smith dénonce ici le système colonial, Jean-François Duniac, mais c'est avant tout pour des raisons économiques.
Oui, absolument. Donc c'est dans le livre 4, le chapitre 7 de La richesse des nations, des colonies, que Adam Smith produit en fait un bilan entrée-sortie des colonies. Et il arbitre en défaveur des colonies en montrant que leur coût est finalement exorbitant en regard des bénéfices qui en sont tirés. Adam Smith est écossais. Adam Smith a été commissaire des douanes pour l'Écosse et il connaît le système en particulier fiscal et douanier britannique et il voit son inefficience. Ça, c'est une chose assez claire. C'est un Écossais aussi qui a vu, en tout cas a entendu parler près de 80 ans plus tôt d'une expérience nationale complètement ratée des Écossais dans la colonisation lorsqu'ils essayent de s'implanter sur l'isthme de Darien, en l'occurrence le isthme de Panama, entre 1698 et 1702, échec total qui va endetter toute la noblesse écossaise et qui ne va pas peu contribuer d'ailleurs au rattachement de l'Écosse à l'Angleterre et la constitution de la Grande-Bretagne. Dernier point enfin, 1776, nous sommes l'année de la crise américaine. Il faut avoir en tête que là encore, les coûts de l'Empire sont monstrueux. En 1756, au moment où commence la guerre de 7 ans qui forge le premier empire colonial britannique, la dette de l'État, c'est 70 millions de livres. En 1763, après avoir gagné face aux Français, gagné l'Amérique et les Indes, le déficit a été multiplié par deux à 134 millions de livres. Ce qui enclenche d'emblée une crise avec l'Amérique, puisqu'on va essayer de faire peser sur les Américains le poids de cette victoire. Et Adam Smith est parfaitement conscient, là encore, des effets délétères pour l'État et pour l'économie de ces guerres impériales ou coloniales, simplement.
Ce que dit Adam Smith, peut-être, Philippe Chassaigne, c'est que ce système colonial bénéficie à une aristocratie britannique, mais pas à tout le peuple, là où le libre-échange que lui prône permettrait une meilleure répartition, peut-être une meilleure distribution de l'enrichissement.
Et voilà, le libre-échange, en fait, donc on commerce avec l'ensemble des nations et non pas prioritairement avec l'Empire britannique, le libre-échange, ça aurait des effets beaucoup plus importants. Ça a une sorte, une comparaison imposée, mais ça a un effet de trickle-down, de ruissellement. Bon, c'est que la théorie du trickle-down, c'est la grande théorie des libéraux à partir de la fin du 19e siècle. Donc ça a un effet, effectivement, de ruissellement de la richesse, donc du groupe des marchands, des aristocrates, en direction des groupes sociaux moins favorisés, et leur permettrait ainsi de payer davantage d'impôts et donc de renflouer les caisses de l'État.
Et donc c'est une critique du mercantilisme que dresse ici Adam Smith, une critique qui est aussi partagée par David Hume, que vous citiez tout à l'heure, Jean-François Duniac.
Oui, absolument. Et là encore, alors David Hume, un autre Écossais, hein, il faut voir, les Écossais sont très, j'allais dire, très présents dans ces débats philosophiques et particulièrement économiques. Et là, l'un des points au cœur notamment des essais politiques et moraux de David Hume, publié en 1742, ça va être justement la question de la guerre commerciale des uns contre les autres, ce qu'il va traduire d'ailleurs comme un combat de gourdin dans un magasin de porcelaine, ce qui montre un peu, si vous voulez, cette idée que les luttes commerciales, voire les guerres coloniales en réalité, épuisent littéralement les États. Pour des bénéfices qui sont de plus en plus critiqués également pour des raisons morales. Ça, c'est un autre ordre de critique, effectivement, du colonialisme, puis de l'impérialisme. Ça va être les critiques sur les conséquences morales, en fait, du projet.
Et ce sont des critiques qui montent en puissance en cette fin du XVIIIe siècle. On peut penser aussi à d'autres penseurs comme Jeremy Bentham ou encore Edmund Burke, Jean-François Duniac.
Oui, absolument. Alors, Burke, par exemple, est extrêmement intéressant pour ce qui est des causes morales. Burke avait déjà donné en 1757 un essai sur la description de la colonisation de l'Amérique, dans laquelle notamment il dénonçait l'avidité particulière des Britanniques. Cet essai d'ailleurs inspirera un peu plus tard le best-seller anticolonial du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'histoire philosophique des deux Indes, publié par l'abbé Reynal à partir de 1770. Ce que Burke va fustiger notamment, ce sont les conséquences à la fois, j'allais dire, constitutionnelles et morales. Constitutionnelles en ce que l'armature, on va dire, mercantiliste et autoritaire depuis la métropole a vicié les relations entre les colonies et cette métropole, et il le vit particulièrement au moment de la crise américaine, où tout l'enjeu est de savoir ce que sont les Américains, des sujets ou des libres britanniques, et plus encore les effets moraux. On peut évoquer notamment un célèbre procès, le procès qui a été fait au gouverneur général des Indes britanniques, Warren Hastings, entre 1788 ou 1795, où Edmund Burke a été particulièrement impliqué justement pour dénoncer les effets corrupteurs de la colonisation, à la fois sur dans son projet, mais également dans ses conséquences sur les fonctionnaires et la société britannique.
Philippe Chachène, sur cette montée des critiques pour des raisons économiques et morales qui inspireront ensuite d'autres critiques au XIXe siècle.
Déjà, il y a la perte des 13 colonies en 1783, et cette perte des 13 colonies a alimenté l'idée que, de toute façon, il y a une sorte de destin naturel ou une pente naturelle dans l'histoire des colonies qui est donc d'accéder à l'indépendance, et que à l'avenir, il faudrait surtout éviter de refaire la même erreur qu'en 1776, c'est-à-dire vouloir réduire, brimer ses aspirations à l'indépendance, engager une guerre coûteuse, fratricide, et dont l'issue s'avère néanmoins indépendance des 13 colonies dans des conditions qui sont très glorieuses pour les 13 colonies, mais absolument humiliantes pour la Grande-Bretagne.
L'indépendance des 13 colonies américaines, mais aussi la révolution industrielle, vont reconfigurer le débat autour de l'impérialisme. On en parle dans un instant.
London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because the English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me.
London is the place for me, de Lord Kitchener sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Chassaigne, avec nous depuis Bordeaux, et de Jean-François Duniac, pour parler de l'empire colonial britannique. Alors, vous l'avez dit, Philippe Chassaigne, 1783, c'est une date pivot, la date de la fin de la guerre d'indépendance américaine. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une date pivot entre le premier et le second empire britannique, comme on commençait à se poser la question au début de cette émission? Est-ce que ce passage du mercantilisme au libéralisme ne se fait pas en réalité de façon beaucoup plus progressive, Jean-François Duniac?
Alors il faut... 1783, c'est l'année de publication d'un essai du comte de Sheffield, justement, sur les conséquences économiques, en particulier de la crise américaine. Et Sheffield détaille, item par item, produit par produit, marché par marché, les conséquences et les perspectives du futur commerce de la Grande-Bretagne avec ses partenaires économiques, et particulièrement encore l'Amérique. Et il conclut à une chose très simple. Finalement, les choses vont repartir d'elle-même parce que les liens sont trop forts, parce que les marchés sont trop liés les uns avec les autres. Et il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'avant même la Révolution française, le niveau du commerce sur les mêmes bases, bon, il y a un traité qui est signé un peu plus tard, mais quasiment sur les mêmes bases, en réalité, sont signés et se redéveloppe le commerce entre les anciennes 13 colonies et la métropole. Et dans les années 1790, le volume va même doubler.
Mais c'est en tout cas en cette fin du XVIIIe siècle, Félix Chassaigne, que des centaines de droits de douane sont abrogés et que le libre-échange devient vraiment le cœur de l'impérialisme économique britannique.
Enfin, ça se fait mais de façon très progressive. C'est-à-dire que d'abord, il y a la diminution des droits de douane, et puis ensuite, il y a donc les lois adoptées à l'initiative du Premier ministre Robert Peel entre 1842 et 1849, qui vont démanteler tout le système mercantiliste, tout ce qui restait de l'époque des lois de navigation du XVIIe siècle. Donc on a une mise en place qui est progressive, mais on est vraiment dans un système de libre-échange qui est à partir du milieu du XIXe siècle.
Et alors la Grande-Bretagne, qui est à son apogée, peut-être l'apogée de sa révolution industrielle, en quoi ce commerce colonial au XIXe siècle, Philippe Chassaigne, favorise-t-il le développement économique mais aussi démographique de la Grande-Bretagne?
Alors il faut nuancer les choses et éviter de tomber dans certains clichés. En fait, au XIXe siècle, l'Empire n'a jamais été ni le premier fournisseur ni le premier client de la Grande-Bretagne. C'est justement la conséquence du passage au libre-échange qui fait que la Grande-Bretagne devient vraiment une nation qui commerce à l'échelle de la planète. Mmh. C'est une puissance commerciale globale, mondiale. Et en réalité, ce n'est pas après la Seconde Guerre mondiale que ce qui reste de l'Empire, essentiellement l'Afrique, représente plus de 50% des importations et des exportations. Au XIXe siècle, ce n'est pas le cas. Pas plus que l'Empire n'est l'endroit où sont placés la majorité des investissements outre-mer de la Grande-Bretagne. Donc l'Empire a une importance réelle, mais tout ne dépend pas de l'Empire. Ça, c'est vraiment très important à préciser. Par ailleurs, en termes de démographie, entre 1815 et 1914, il y a un peu plus de 22 millions de Britanniques qui quittent les îles britanniques. À peu près les deux tiers d'entre eux vont s'installer aux États-Unis et le tiers restant s'installe dans les colonies. D'abord, donc ce qu'on appelle les colonies de peuplement, donc avec une population qui est population blanche. D'abord le Canada, puis au fur et à mesure que les conditions de transport s'améliorent, et bien des destinations plus lointaines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
Et alors ce qu'il faut aussi souligner sur ce début du 19e siècle, c'est que la Grande-Bretagne abolit le commerce négrier, ça c'est en 1807, puis l'esclavage colonial en 1833. Comment est-ce que la Grande-Bretagne devient abolitionniste, Philippe Chassaigne?
Ah, c'est parce qu'il y a un grand débat politique, philosophique, moral, à partir des années 1780, sur justement ce qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, donc sur les conséquences néfastes sur le plan moral de, non pas du système colonial en lui-même, mais de cette institution particulière qui était l'esclavage. Et donc ce sont les protestants non anglicans, donc les dissidents, les non-conformistes, qui sont à la pointe de ce combat. On peut citer Wilberforce, entre autres, enfin qui est un des grands opposants à l'esclavage.
Oui, parce que d'un côté, on a cette position abolitionniste qui devient donc dominante, et en même temps, on a une autre position qui apparaît, notamment avec le philosophe John Stuart Mill, d'une mission civilisatrice de la Grande-Bretagne dans les pays colonisés, Philippe Chassaigne.
Oui, tout à fait. Et donc, surtout qu'avec Mill, John Stuart Mill, on est aussi dans ce 19e siècle qui voit le triomphe de l'évangélisme, donc ce courant religieux qu'on trouve aussi bien dans l'Église d'Angleterre que chez les protestants non anglicans, et qui, dont une des manifestations est un attachement aux valeurs morales, un moralisme même parfois un peu caricatural ou étriqué. Mais donc volonté d'avoir une politique qui soit une politique reposant sur le bien, sur le bon, et ce qui est donc aussi ce qui est bien et bon est nécessairement utile pour la société.
Mais alors, est-ce que John Stuart Mill ne reprend pas les arguments qui avaient été développés par Adam Smith, c'est un libéral lui aussi, mais pour défendre cette position qui est une position inverse, cette position favorable à la colonisation? Il parle même de despotisme tolérant en Inde, Philippe Chassaigne.
Oui, l'Inde, c'est une situation particulière, parce que lorsque les Britanniques se sont implantés en Inde et lorsqu'ils ont définitivement évincé les Français, en fait, ils se sont coulés dans le système politique de l'Empire moghol, qui décliné, mais qui n'est formellement aboli qu'après la révolte des Sipayes en 1858. Et donc, l'Inde a toujours été un endroit un peu particulier où les principes libéraux en matière politique de l'Angleterre n'étaient pas applicables ou ne pouvaient être appliqués. Donc effectivement, même s'il est éclairé, c'est néanmoins du despotisme.
Et alors Walt Whitman, le poète, publie en 1870 « Passage vers l'Inde », un poème que je vous propose d'écouter.
Le passage vers l'Inde. Regarde, mon âme, n'aperçois-tu pas le dessein de Dieu dès le commencement? La terre destinée à être enserrée, reliée par des entrelacs de réseaux. Les races, les voisins à épouser et à être épousés. Les océans à être traversés. Le lointain à devenir proche. Les terres à être soudées l'une à l'autre. Je chante un culte nouveau. Je le dédie à vous, capitaine, navigateur, explorateur, à vous, ingénieur, à vous, architecte, à vous, constructeur de machines, à vous qui avez œuvré non pour le seul commerce ou le seul transport, mais au nom de Dieu et pour l'amour de toi, ô âme. Le passage vers l'Inde. Regarde, ô mon âme, ils sont pour toi ces deux tableaux. Dans l'un, je vois la cérémonie d'inauguration du canal de Suez. Je vois le cortège de vapeurs, celui de l'impératrice Eugénie, en tête. Je remarque du pont l'étrange paysage, le ciel pur, le sable tout uni, au loin. Je passe rapidement devant les groupes pittoresques des ouvriers réunis et les gigantesques machines à draguer. Puis dans l'autre différent, mais tout aussi tien, entièrement tien, ô âme, je vois sur mon propre continent le chemin de fer du Pacifique vaincre tous les obstacles.
Jean-François Dugnac, que vous inspire cet extrait du poème de Whitman, lu ici par Antoine Beauchamp?
Mais pour revenir sur John Stuart Mill, justement, effectivement, on est au cœur de cet imaginaire indien, mais pas seulement, de la place particulière tout de même de l'Inde, évidemment, dans la défense et illustration du colonialisme puis de l'impérialisme britannique. Il faut simplement glisser que John Stuart Mill, comme son père James Mill, sont employés de l'East India Company. C'est là encore, comme une série de ses précédents penseurs, des gens qui sont nécessairement impliqués, j'allais dire, dans l'aventure, et on peut comprendre aussi pourquoi. Donc John Stuart Mill va faire un cas particulier de la mission indienne, j'allais dire, de la Grande-Bretagne. C'est un premier point. Le second point, cette insistance très millienne, finalement, de Whitman dans son poème, dans son évocation, renvoie effectivement à ce que développe John Stuart Mill sur les critères de la civilisation, c'est-à-dire ce que les civilisations supérieures apportent aux espaces moins civilisés ou tombés en décadence comme l'Inde, c'est-à-dire notamment les signes concrets de la civilisation. Il est l'un des premiers à véritablement formaliser le développement des routes, des ponts, des systèmes de transport, de communication, des bâtiments publics, etc. C'est-à-dire que ce vieux thème qu'on retrouve encore de manière très concrète, si vous voulez, sur ceux qui parfois célèbrent encore la mission civilisatrice du colonialisme, on le trouve déjà chez John Stuart Mill et thématiquement et de manière poétique, évidemment, dans le texte qui vient d'être lu.
Philippe Chassaigne, sur cet imaginaire de l'Inde qu'on entend chez Whitman et qui sert aussi peut-être de justification à ses défenseurs de cette mission civilisatrice des Britanniques?
En fait, il met en parallèle donc le canal de Suez et les transcontinentaux. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est parce qu'en plus, les chemins de fer transcontinentaux aux États-Unis ont été largement financés par les Britanniques. C'est à la place de Londres que on est allé chercher les capitaux pour les construire. Et effectivement, on est dans cette période qui voit vraiment une mondialisation accélérer des flux commerciaux, des flux financiers, et le chemin de fer, le canal de Suez, le passage de la voile à la de la marine à voile à la marine à vapeur, le développement du télégraphe, ce qu'un historien britannique a appelé l'internet victorien, tout cela contribue à restreindre les distances, les temps de transmission des informations, de déplacement des personnes et de déplacement des marchandises. Donc Whitman célèbre en quelque sorte cela, et bien évidemment le fait que, ce que me disait Jean-François à l'instant, une région comme l'Inde qui avait connu qui avait passé fleur, qui avait connu son apogée quelques siècles auparavant, pouvait trouver là une matière à un nouveau développement.
Et alors évidemment Whitman ou encore Mill ne sont pas les seuls à défendre la nécessité de la colonisation. C'est aussi une idée qui est portée par Benjamin Disraeli, qui est le premier ministre conservateur de 1874 à 1880. On l'écoute.
Now that my honorable friend Mr. Gladstone, with his customary eloquence and tact, has expressed his customary disapproval.
Maintenant que l'honorable Sir Gladstone, avec son éloquence et son tact habituel, a exprimé sa désapprobation habituelle, voilà, messieurs, le vrai dilemme. Soit vous vous contentez d'être une Angleterre confortable au prix d'une inévitable haine de soi, soit vous choisissez d'être un grand pays, un pays impérial, un pays dans lequel les fils que nous élevons seront portés au premier plan et obtiendront non seulement l'estime de leurs compatriotes, mais aussi l'estime du monde. Voilà Benjamin Disraeli, incarné par George Arliss dans le film d'Alfred Green sorti en 1929. Il est l'un des plus fervents défenseurs des conquêtes coloniales, Philippe Chassaigne.
Ah oui, absolument. Donc Disraeli, le grand ministère d'Israël, c'est 1874-1880, et donc il mène une politique d'expansion de la Grande-Bretagne. C'est lui qui fait de la reine Victoria l'impératrice des Indes en 1876. Bon, d'autres fois, il y a des décisions qui sont de moins bonne qualité, comme de se livrer à une nouvelle guerre avec les Afghans. Et cette guerre anglo-afghane du 79 termine comme la première sur un résultat très mitigé, voire même un échec pour les Britanniques. Mais néanmoins, l'Israël est vraiment associé à cette grandeur impériale de la Grande-Bretagne. Et en fait, on peut dire qu'après 1875, je vais citer François Crouzet, avec une phrase que je cite souvent à l'écrit ou à l'oral. François Crouzet écrivait que justement, dans le dernier quart du 19e siècle, avoir des colonies était devenu pour les Britanniques, je cite, une nécessité psychologique. Et donc là, il y a vraiment la volonté de s'étendre. En Inde, après 1857-58, la révolte des Sipahis, il n'y a plus d'annexion, mais l'ensemble constitue le Raj indien, donc est élevé au rang d'empire, donc est structuré. Et puis après 1880, le terrain d'expansion principal, c'est l'Afrique.
Et pourtant, face à Benjamin Disraeli, il y a un autre personnage, William Gladstone, qui est l'autre grand dirigeant britannique de la fin du 19e siècle et qui, lui, est associé à ce mouvement Little England qui se bat pour que l'Empire britannique se limite aux seules îles britanniques. Philippe Chassaigne.
Oui, alors Gladstone, c'est un peu compliqué. En 1882, il vient de succéder à Disraeli au 10 Downing Street. En 1882, comme il avait des intérêts dans la dette égyptienne et que le Khedive menaçait de ne pas honorer ses dettes, il ne voit absolument aucun problème à ce que les Britanniques occupent militairement l'Égypte. Ils arrivent en 1882, le dernier soldat britannique ne quitte l'Égypte qu'après Suez. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de...
Une défense relative.
Mais effectivement, ensuite, en dehors de cela, Gladstone, lui, considérait que les colonies coûtaient cher, qu'il fallait éviter de se lancer des aventures coloniales qui pouvaient se révéler hasardeuses. Et effectivement, si la deuxième guerre anglo-afghane, c'est Disraeli qui la lance, c'est Gladstone qui l'a conclu. Et donc, il fallait garder l'Empire tel qu'il était. Et voilà. vraiment dire que c'est un partisan de Little England, c'est un peu exagéré, mais il représente effectivement ce courant du Parti libéral qui considère que il vaut mieux économiser sur l'Empire et réaliser les réformes sociales ou politiques. Gladstone, c'est aussi celui qui va tenter d'instaurer l'autonomie pour l'Irlande, le Home Rule, et donc pour que le pays en bénéficie.
Il y a donc des libéraux qui s'opposent au colonialisme, et parmi les autres arguments que l'on peut entendre à cette époque-là, c'est cette idée développée par exemple par quelqu'un comme Richard Cobden, que l'empire colonial ne sert qu'à soutenir, je cite, la plus parasite des classes, l'aristocratie britannique, sans compter qu'elle fait peser un risque permanent de guerre. Ça fait partie des arguments qu'on peut entendre, Jean-François Duniac.
Oui, absolument. Alors Richard Cobden appartient effectivement à ce mouvement qu'on va un peu plus tard qualifier de Little England, absolument, avec d'autres personnages comme John Bright, par exemple. C'est une vision à la fois libérale qui, Cobden s'illustre notamment dans les luttes contre les corn laws, hein, les lois qui restreignaient le commerce des grains en Grande-Bretagne entre 1815 et 1846. Et effectivement, il développe cette perspective, j'allais dire, d'un libéralisme à la fois certes ouvert, mais restreint finalement à la sphère britannique, hein, une économie de moyens destinée d'abord et avant tout à, j'allais dire, au cœur que doivent être les îles britanniques, une non-implication, en tout cas une implication mesurée dans l'Empire, dans la mesure où effectivement c'est une nouvelle fois la source de tous les gouffres et de tous les travers politiques.
Il y a cette idée que malgré le libre-échange, il y a encore des monopoles coloniaux, Philippe Chassaigne, qui ont des conséquences économiques négatives.
Oui, la ligne de pensée de Richard Cobden, c'était que bon, les colonies coûtaient cher, que si les colonies accédaient à l'indépendance, elles ne coûteraient plus rien au trésor britannique, mais continueraient d'entretenir un lien commercial avec la Grande-Bretagne. Par conséquent, là, elles rapporteraient sans rien coûter du tout. Voilà pourquoi il y a dans cette première moitié de 19e siècle, les libéraux, les partisans du libre-échange, sont également très critiques envers l'Empire, en raison, encore une fois, de l'analyse coût-revenu. Et après 1875, enfin c'est entre 1870 qu'il y a vraiment un changement de mentalité, mais après, si les colonies sont devenues pour les Britanniques donc une nécessité psychologique, pour reprendre l'expression, c'est du coup, on ne raisonne plus du tout en termes de coût-bénéfice. C'est parce qu'on raisonne en termes de prestige national, parce qu'il y a la France qui commence à se constituer un empire colonial. Après 1888, ce sont les, ou même 1883, ce sont les Allemands. Et donc l'idée, c'est que la puissance, la grandeur d'une nation, sa puissance, elle se voit aussi dans son empire colonial. Et à partir du moment où la Grande-Bretagne, à ce moment-là, dans les années 1880-1900, est la première puissance commerciale mondiale, a la première flotte commerciale mondiale, a la première marine de guerre mondiale, elle a le premier empire colonial mondial, et donc cet empire, il faut l'accroître au maximum parce que c'est consubstantiel à la puissance du pays.
Une grandeur qui doit s'étendre partout, et cette influence devrait, selon la reine Victoria, même aller jusqu'à la Chine.
C'est un échantillon du nouveau timbre postal qui va être édité. Qu'en pense votre majesté?
Elle est à son avantage là-dessus.
Ce timbre sera distribué dans chacun des pays de l'empire britannique. Ma chère, partout où le soleil se lèvera, il y aura votre image.
Sauf en Chine, non? Alors, messieurs, il me semble que nous avons la responsabilité d'ouvrir au monde le dernier grand territoire de tout l'Orient. Qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Et ce, durant tout le 19e siècle.
Un extrait du film La guerre de l'opium, réalisé en 1997 par Jing Zhe. L'impérialisme passe aussi par la domination commerciale. C'est ce qui se passe en Chine au milieu du 19e siècle, Philippe Chassaigne.
Oui, mais la Chine l'Amérique latine, comme l'Amérique latine, fait partie de ce qu'on appelle l'empire informel, donc des régions qui sont liées, même très très liées économiquement et financièrement à la Grande-Bretagne, mais qui conservent, en tout cas pour la Chine, c'est de façon quand même assez théorique, leur indépendance politique.
C'est l'idée, avec les guerres de l'opium, de forcer la Chine à s'ouvrir au commerce, tout simplement, Philippe Chassaigne.
Oui, tout c'est ça. Et en fait, bon, cette guerre pour le prétexte et donc la possibilité pour les Britanniques d'importer de librement l'opium en Chine, c'est ouvrir effectivement le marché chinois à la Grande-Bretagne et aux autres pays européens. L'idée étant que là, le commerce est aussi un vecteur de civilisation, d'acculturation et de civilisation.
Et en même temps, les conflits vont se multiplier. Je pense en particulier à la Seconde Guerre des Bourgs de 1899 à 1902, qui va particulièrement diviser la nation, alors même que la Grande-Bretagne est au paroxysme à la fin du 19e siècle de son pouvoir impérial, Jean-François Duniac.
Oui, absolument. Alors, vous évoquez la Guerre des Bourgs, effectivement, ce sera l'occasion d'un essai célèbre, c'est celui de John Atkinson Hobson, justement Imperialism, publié en 1902, qui est une critique précisément de la politique hégémonique de la Grande-Bretagne, particulièrement dans cette région. C'est un ouvrage qui d'ailleurs va avoir un certain aura parmi tous les contempteurs les critiques de l'impérialisme au cours du premier XXe siècle. Lénine, par exemple, s'en inspirera dans son propre essai de 1916, sur l'impérialisme.
Pourquoi cette deuxième guerre des Bourgs suscite-t-elle autant de critiques, Philippe Chassaigne ?
Bah, je cite des critiques parce qu'en fait, la réalité est assez facile à voir. C'est qu'en fait, la Grande-Bretagne veut instaurer sa domination sur deux États libres. Donc le Transvaal et la République d'Orange, uniquement pour contrôler les réserves minières, donc d'or et de diamants. Et donc la Grande-Bretagne qui se targue d'être le pays de la liberté politique, la mère de la démocratie, pratique en Afrique australe une politique qui est le contraire justement de ce respect de la liberté des individus. Et donc les intérêts économiques d'un petit nombre de personnes au sein de la classe marchande, enfin des banquiers, donc de la City, amènent à la Grande-Bretagne à se comporter d'une façon qui est contraire à ses propres valeurs.
Alors on arrive au terme de cette émission, un dernier mot peut-être sur les bénéfices économiques que la Grande-Bretagne a pu retirer de son empire et de ses colonies avant qu'on parle d'empire, et sur ces débats d'idées sur la colonisation qui ont traversé tout le XVIIIe et le XIXe siècle. Jean-François Duniac, pour commencer.
Alors, oui, dresser un bilan là en quelques secondes, c'est évidemment impossible. Disons que c'est effectivement un enjeu, un très bel enjeu de débat encore historiographique de nos jours, dans la mesure où on découvre ou redécouvre toute une série de ces aspects, où l'on reprend toujours cette grande narration et où on en examine les points parfois de détails les plus précis pour reprendre complètement à nouveau frais ce fameux récit du premier puis du deuxième empire, du passage de l'ouest à l'est, le passage évidemment du mercantilisme au libéralisme. Je crois que c'est effectivement les débats du XVIIIe siècle servent beaucoup à ça.
Philippe Chassaigne.
L'empire colonial, il a été la condition nécessaire, mais pas suffisante à la suprématie mondiale, de la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet, son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Des discussions difficiles entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie sur l'avenir des livraisons de gaz russe. Les négociations de ce week-end ont tourné court et l'Union européenne court un risque pour son approvisionnement.
En tout cas, le vice-président de la commission de l'Union européenne chargée de l'énergie, Maroš Šefčovič, ne cachait pas sa déception hier, puisqu'aucun accord n'a été trouvé entre Naftogaz, l'ukrainien, et Gazprom, le russe, sur le renouvellement de ce contrat de livraison de gaz russe via l'Ukraine. Pour les 10 prochaines années. Ce transit par l'Ukraine est stratégique pour l'Union européenne. C'est la moitié des 170 milliards de mètres cubes envoyés de Russie, également de grandes capacités de stockage. C'est aussi vital pour Kiev, qui reçoit en contrepartie 3 milliards de dollars par an. L'actuel contrat arrive à échéance, mais la donne a changé depuis 10 ans. Outre la géopolitique, bien sûr, Moscou va mettre en service 3 nouveaux gazoducs d'ici 2020-2021, un dans la Baltique et deux en mer Noire. Depuis un an, l'Union européenne demande à la Russie un volume important de transit en Ukraine, 60 milliards de mètres cubes par an, voire 90 milliards occasionnellement. Beaucoup trop en tout cas pour Moscou, explique Marc-Antoine Eil-Mazega, il est directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI.
L'idée, c'est qu'actuellement, l'Ukraine assure le transport d'à peu près 85 milliards de mètres cubes de gaz russe par an vers les marchés européens, soit un petit peu moins de la moitié du total des exportations russes vers l'Europe. La Commission européenne considère que l'Ukraine doit être conservée comme route d'approvisionnement pour le gaz russe. Et en effet, elle a proposé à la Russie, avec l'accord de la partie ukrainienne, eh bien, un contrat qui irait en réalité baisser les volumes d'à peu près 30% par rapport à l'état actuel. Mais l'Ukraine resterait une voie absolument majeure d'approvisionnement de l'Europe. Mais les Russes ne l'entendent pas de cette façon. Eux considèrent qu'ils ont construit et investi massivement dans des tubes pour justement éviter l'Ukraine et pour approvisionner directement leurs deux grands marché, l'Allemagne, qui est le premier marché pour le gaz russe en Europe, et puis plus au sud, et la Turquie et l'Italie, à travers ce gazoduc Turk Stream. Et donc, pour les Russes, il est hors de question de maintenir de tels volumes par l'Ukraine, et le problème des Russes, c'est qu'en réalité, ils ne savent pas quand va être mis en service le Nord Stream 2, et donc ils jouent la montre.
Voilà, les négociations doivent reprendre en novembre, mais si elles échouent encore, la Russie pourrait couper ses livraisons à l'Ukraine, Xavier.
En tout cas, c'est ce qui est arrivé de nombreuses fois entre 2006 et 2015. Couper les vannes est un moyen de pression plus sur l'Ukraine que sur l'Union européenne, puisque 36% du gaz consommé en Union européenne est russe. En attendant, Gazprom tente de proposer ou bien un renouvellement du contrat sur un an, ou bien un contrat global où l'Ukraine s'engage à consommer un certain volume, mais ça, l'Union européenne n'en veut pas.
On passe au bref. Russie et Union européenne toujours. Vladimir Poutine est à Budapest pour renforcer la coopération économique.
Oui, au programme, les discussions sur l'extension de l'unique centrale nucléaire hongroise d'ici 2025 avec un prêt de 10 milliards de dollars de Moscou ou un projet conjoint d'équipement ferroviaire à vendre à l'Égypte, mais aussi des discussions sur le gaz car la Hongrie dépend plus que quiconque en Union européenne du gaz russe, 80% de ses approvisionnements. Selon Russia Today, Budapest souhaite augmenter ses stocks de gaz russe avant la fin de l'accord de transit avec l'Ukraine à la fin de l'année pourrait vouloir se raccorder au Turkish Stream en finalisation dans la mer Noire.
Et on en parlait hier, les premiers chiffres pour évaluer la santé de l'économie américaine en cette fin d'année.
1,9% de croissance du PIB au troisième trimestre, c'est bien mieux que les 1,5% annoncés par les analystes. Un premier indicateur qui devrait rassurer les marchés. À suivre donc ces chiffres tout à l'heure à 18h avec le taux conducteur de la Fed.
Et on en reparlera dans notre débat d'actualité économique ce vendredi. Et enfin, la grosse affaire industrielle en France depuis ce matin, c'est celle-ci, cette possible fusion entre PSA et Fiat Chrysler pour créer le quatrième groupe automobile mondial.
Et l'AFP nous annonce que l'annonce pourrait même avoir lieu demain. Un groupe de 10 marques capable de vendre 8,7 millions de véhicules par an et qui pèserait 45 milliards d'euros à la bourse. C'est effectivement ce que projettent les dirigeants de PSA et Fiat Chrysler. Le premier constructeur trouverait une taille critique comparable à Toyota ou Renault-Nissan. Et Fiat Chrysler cherche apparemment des synergies technologiques. Les actions en tout cas bondissent et c'est une résurrection pour PSA qui risquait la faillite en 2012 et un retournement quand même pour Fiat Chrysler, déçu d'une précédente tentative cette année, un rapprochement avec Renault-Nissan.
Merci beaucoup Xavier Martinet, et j'indique que votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
In a strange faraway country, in a strange hotel room, there's a sadness lingering on. Been trying not to surrender to its heavy fallen gloom. Try to cheer myself up with a happy song. And here I am with all this tensity and this messed up face of mine. Well, all that I had today was coffee and wine. And I'm still wondering about this tensity and this messed up face of mine. When all that I had today was coffee and wine. Just behind my waking thoughts, just behind my daydreams, there's a stream of agitation scorching and blazing, hunting me down in the afternoon heat, creeping up slowly through the soles of my feet, pushing me down a maze of streets, leaving me behind in breathless chills. There's no remedy to this rapid fire, cold sweat on my spine, all that I have today was coffee and wine.
se quitte avec le dernier titre de Mariama, Coffee and Wine. Merci beaucoup Philippe Chassaigne et Jean-François Duniac de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Bordeaux qui ont permis ce duplex. Demain, c'est l'Angleterre des années Thatcher et du choc néolibéral que nous allons explorer en compagnie de Nathalie Champroux et de Marc Lenormand. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions, bien sûr, sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.